pas la Bible par terre. Voilà. Ça va, Christiane? Ouais. Que ta gloire descende en ce lieu. Waouh. Que ta gloire descende en ce lieu. Amen. Que ta gloire descende en ce lieu. J'ai pas vu tout le monde ce matin. Je vais changer ma chemise, tu veux ?
Ouais, si tu veux bien.
Je peux la retirer.
C'est pas
Ah, quelle joie. D'ici où je suis et de là où vous êtes, mon cœur vous donne un saint baiser. Mon message se veut un message d'encouragement. D'encouragement. Nous avons besoin de patience, nous avons besoin de voir les voies de Dieu, ce qu'il veut pour nous dans nos vies, et ce message se veut un message d'encouragement. Connaissez-vous Lazare ? Il y en a des Lazares dans la Bible. Je vais remonter un petit peu si c'est possible. Voilà. L'ergonomie, c'est très important. Ça évite les mal de dos à long terme. Il y a beaucoup de Lazares dans la Bible. Vous avez remarqué ? Et vous les connaissez, je ne vais pas vous faire un cours biblique. Lazare en hébreu a la signification suivante, c'est Dieu, Dieu est mon secours. Mais connaissez-vous Lazare Poncelli ? Ah ! Est-ce que c'est Lazare Poncelli qui a mis les deux buts de la tête en 98 contre le Brésil et qui a fait que nous soyons champions du monde ? Non, non, on est bien d'accord. Non, on connaît Zidane, on ne connaît pas Lazare Poncelli. Pourtant, ils ont un point commun. Ils ont reçu tous les deux la Légion d'honneur. Oui, oui, la Légion d'honneur. Pas pour le même titre. Pas pour le même titre. Lazare Poncelli est né en 1897. Ça fait loin, Antonia. Ça fait loin. Hein. Et il est mort le 12 mars 2008. Lazare Poncelli a été le dernier poilu de la guerre 14-18. Il est vivant et il est mort, c'était notre dernier poilu. Alors Lazare Poncelli a été interviewé par la presse et on lui a posé cette question, mais quel est votre secret ? Comment avez-vous fait pour vivre aussi longtemps ? Avez-vous été sobre ? Vous n'avez peut-être pas usé de cigarettes ? De dernière chose, quel est votre secret, Monsieur Lazare Poncelli ? Et Monsieur Lazare Poncelli a répondu : mon plus grand secret pour vivre jusque 110 ans a été la patience. A été la patience. Croyons-nous ça ? Est-ce que nous croyons pour vivre 110 ans, il nous faut de la patience ? Vous allez peut-être être d'accord avec moi, Lazare Poncelli, c'est un homme qui aime bien l'humour. Hein. C'est un plaisantin. Scientifiquement, il est vrai que notre espérance de vie augmente. Mais devons-nous croire que notre patience est proportionnelle à nos cheveux blancs ? Croyons-nous que dans le temps, dans le vieillissement, nous serons de plus en plus patients ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que nous sommes de moins en moins patients. Beaucoup en vieillissant sont de moins en moins patients. Et nous sommes dans un monde de plus en plus impatient. Ouvrons les yeux autour de nous. Regardons le monde dans lequel nous vivons. On pourrait dire que c'est un monde de fous. On court dans tous les sens, on nous fait patienter au téléphone. Notre vie, tout le monde ici aujourd'hui attend quelque chose dans la vie. tout le monde. Vous voyez, au pays des promesses, on y meurt de soif. Vous avez déjà entendu ça? Moi, j'aime bien les dictons des personnes âgées. Ça vient de ma grand-mère, ça. Et nous avons entendu il y a quelque temps, le changement, c'est aujourd'hui. Nous avons entendu, il n'y a pas longtemps, le changement, c'est maintenant. Et nous avons une France aujourd'hui qui piétine, qui piétine, qui piétine et qui s'impatiente. Si la vie était l'école de la patience, je pense qu'il y aurait beaucoup de redoublants. Vous ne pensez pas? Nous en avons tous plus ou moins, tous plus ou moins. Mais nous ne sommes pas tous égaux devant la patience. Non. Il y en a qui en ont d'autres, plus que d'autres. Ma sœur Sylviane, on peut dire qu'elle avait une patience d'ange. Son exutoire, à un certain moment, dans les difficultés de sa vie, ça a été de faire un tableau en graines. Un tableau en graines d'oiseaux. Il mesure 1,20 m sur 70. Et ma sœur a pris des graines d'oiseaux. Elle les a premièrement triées. Une à une, elle les a collées. Une à une, les a collées pour confectionner la tête du Christ. Vous imaginez la patience? Moi, je ne pourrais pas, je n'aurais pas pu faire ça. C'est un travail remarquable. Ce tableau est chez moi. Il y a un seul tableau. La visite est gratuite, je vous y invite. Il faudra patienter. De ce fait, aujourd'hui, il y aura peut-être un peu d'attente, vous voyez. La patience détermine notre caractère, mais elle dépend, vous êtes d'accord avec moi, des circonstances. Ah, tu n'as vraiment pas de patience. Tu n'as vraiment pas de patience. Avez-vous remarqué, mes frères et sœurs, mes amis, qu'on regarde souvent l'autre comme moins patient que nous? Vous êtes d'accord avec ça? Certainement, hein. Surtout dans les couples. Hein. Qui est patient parmi nous? Tu es patient? Dans toutes circonstances, vous arrivez à rester calme. Oui. Vous arrivez à rester calme sans être agacé. Waouh. Alléluia. Qui est impatient parmi nous? Un rien vous agace. Attendre est insupportable. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, je suis impatient. Qui ne s'est jamais impatienté parmi nous? Ça va. Au moins, il y a une certaine sincérité. Ce que je vais vous faire voir par là, c'est que la patience n'est jamais la plus grande des qualités des hommes et des femmes. Ce n'est pas la plus grande de nos qualités. Nous pouvons avoir avec courage prendre notre mal en patience. Oui, nous pouvons. Nous pouvons. Mais jusqu'où? Jusqu'où pouvons-nous prendre patience? Quelles sont les limites de notre patience? Parce que notre patience a toujours des limites. Parce que nous sommes chrétiens, sommes-nous obligés de tout accepter? Sommes-nous obligés de tout supporter? Je ne vous entends pas. Non. Nous ne sommes pas obligés de tout supporter. Au-delà du seuil de la tolérance, de notre tolérance, après ce seuil de tolérance, arrive l'agacement, arrive l'irritation, et vient ensuite la colère, et quelquefois l'irréparable. Quand certaines situations dépassent les bornes, c'est encore une expression du Nord, on dépasse les bornes. Nous sommes à bout de nerfs. C'est le bruit. Le bruit occasionne le stress. Le stress occasionne l'angoisse. Et alors là, nous rentrons dans une action qui est quelquefois irréparable. À la télévision dernièrement, on voyait un homme qui était dans un état de nerfs Pas possible. Il a pris son fusil. Il a tiré sur un jeune dehors. Il l'a tué. Il était hors de ses limites. Hors de ses limites. Nous devons poser des limites selon Dieu. Oui, nous devons poser des limites selon Dieu à notre patience, refuser de façon justifiée tous les sujets, toutes les situations d'agacement préjudiciables à notre santé physique et mentale. Vous êtes d'accord avec ça? Alors quels sont les sujets de notre impatience? Tous ici, tous, nous avons tous notre lot de poils à gratter. Tous, on a tous quelque chose qui nous agace. Vous êtes d'accord? Nous devons protéger notre cœur, mes frères et sœurs. Nous devons protéger notre cœur parce que notre pensée justifie ce que notre cœur choisit. Vous imaginez? Nous devons protéger notre cœur. C'est essentiel. Alors donnons à Dieu notre impatience. À lui, tout est possible. Jésus sera plus fort en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Donnons-lui notre impatience. Mais attention, frères et sœurs, si nous lui demandons d'avoir davantage de patience, attendons-nous à ce qu'il nous donne des exercices pour que nous ayons plus de patience. Oui. Dans le monde spirituel, devons-nous limiter notre patience avec Dieu? Non. Non. Est-ce qu'il limite sa patience avec nous? Oui. Jamais. Jamais. Dieu est maître du temps. Il est souverain dans toutes choses. Ecclésiaste 3, verset 11, la parole nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Prenez cette parole. Quel impact de votre cœur ce matin. Dieu maîtrise le temps et les circonstances dans le but de faire du bien à ses enfants. Oui, Dieu maîtrise le temps. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, la parole nous dit « il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » Une fois que nous sommes établis dans le salut de Dieu, nous devons tendre vers la perfection. Oui, c'est la volonté du Seigneur. Et notamment, nous supporter les uns les autres. Quelle patience. C'est pas gagné, hein? Hein? C'est pas gagné. Mais c'est la volonté de Dieu. Seul Jésus est parfait. Seul Jésus est parfait. La patience est l'un des 9 fruits de l'Esprit. Et ce fruit de l'Esprit symbolise la perfection de Dieu. Le fruit de l'Esprit. Mais il y a 9 fruits dans le fruit de l'Esprit. C'est dans Galates 5 au verset 22. Jésus était incontestablement patient. Incontestablement patient. Même si quand il est rentré à un moment dans le temple, il a pris un fouet, il a chassé les marchands du temple. Oui, mais il était patient. Sa sainte colère était un geste de purification du temple. Parce que le temple était un lieu de prière. Jésus n'était pas impatient. La colère ne prend pas systématiquement sa source dans l'impatience. Regardons ce que Paul dit aux Philippiens 1 au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ah, il va nous rendre parfaits pour le jour de Jésus-Christ. Le retour du Seigneur, la parousie, le retour du Messie, celle que nous attendons depuis 2000 ans avec patience. Vous voyez que nous avons de la patience. Si Dieu a pris l'initiative de nous donner son salut, il ne laissera pas son œuvre en nous inachevée. Non, tout ce qu'il a commencé aujourd'hui dans ton cœur, Anne-Marie, il va l'accomplir, ma sœur. Il va aller jusqu'au bout dans ton cœur, il va tout accomplir. Amen. Dieu est cohérent. Dieu est cohérent, cherchons sa cohérence. Nous serons tous appelés, tous. Tous, toi, nous serons tous appelés. Mais nous devons attendre le temps kairos, le temps kairos qui est le temps favorable. de Dieu. C'est son temps. Parce que nous sommes tous appelés à une percée spirituelle. Tous. Nous serons tous appelés à rentrer dans la destinée que Dieu veut pour nos vies. Et Dieu va nous montrer le chemin. Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et lui seul conduit au Père, mes frères et sœurs. Amen. Mais notre impatience peut avoir des conséquences. Elle peut avoir des conséquences graves. Non, 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 mais elle peut, Dieu est miséricordieux, mais elle peut freiner notre entrée dans notre appel. Prenons l'exemple de Moshe, Moïse. En hébreu, la signification de Moïse, c'est sorti des eaux. Le peuple hébreu est sorti de l'esclavage en Égypte. Oui, il avait reçu son appel. Il est dans le désert pour 40 ans, Moïse. Il conduit le peuple. Et à ce moment de la Bible, il est à Réphidim, c'est-à-dire il est dans le sud du Sinaï. Nous allons prendre ce verset qui est assez long. C'est dans Exode 17, au verset 1 à 7. Et on va profiter que tu es là, mon frère. Tu nous as manqué, tu sais. Alors, si tu veux bien lire la parole, ce serait gentil. Je vais te donner le... Voilà. Et alors, je te dis tout de suite qu'il y en a un deuxième après.
D'accord. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple. » Et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?»
Amen. Tu peux le garder, il y en a un deuxième. Ça ne dérange pas ? Merci, tu es gentil. Dieu a donné l'ordre à Moïse de frapper le rocher. Forcer la main de l'Éternel, mes frères et sœurs, c'est mettre le Seigneur à l'épreuve. Forcer sa main, c'est le forcer à agir selon nos propres désirs. C'est ça, forcer la main de l'Éternel. C'est réclamer avec impatience son intervention comme un dû. C'est de s'attendre à lui avec impatience. Non pas avec patience et foi. Nous allons regarder Exode. C'est Nombre 20 au verset 7. Et nous allons voir ce qui va se passer À la fin de ce périple dans le désert, dans la 39e année, nous sommes dans le désert de Tsin, au sud-est de la terre promise. L'eau vint encore à manquer. Le peuple s'en prend toujours à Moïse. Vas-y. Nombre 20 au verset 7 à 13.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. »
Merci, Jacques. Voilà, vas-y, tu mets celui-là là, moi je récupère. Non, c'est l'autre côté, c'est l'autre sens. C'est l'autre. Celui-là, on va le mettre ici. Enfin, c'est pas grave, on va le poser par terre, regarde.
Merci.
Il n'y a pas de problème. Ça s'éteint, ça s'éteint pas. Hop, voilà. Moïse s'adressa au peuple. Il était exaspéré. Au bout de 40 ans, il était à la tête d'un peuple hébreu qui avait le cou raide. Le cou raide, il ne voulait pas se plier aux exigences du Seigneur. Et au lieu de parler au rocher, Moïse va frapper le rocher. Ouais. Moïse, il est excédé. Il frappe le rocher non pas seulement une fois, mais deux fois. Mes frères et sœurs, au bout de 40 ans, à la tête d'une bande de courraides, qu'aurions-nous fait? Est-ce que nous aussi nous aurions frappé le rocher? Dans quelle situation de nerfs nous aurions été? Est-ce que nous aurions frappé le rocher? Eh bien Moïse, oui. Tel qu'il était, le grand Moïse, lui qui était transfiguré sur la montagne, eh bien oui, oui, Moïse, il a pété un plomb. Oui, Moïse, il a pété un plomb. Vous en voulez de l'eau? Bah, attendez, vous allez en avoir. Oui, il n'a pas parlé au rocher. Il a laissé libre cours à son impatience. Son impatience qui l'a conduit à la colère. Pour, aux yeux de Dieu, c'est une obéissance imparfaite. Pour nous, à nos yeux, le châtiment peut paraître excessif et lourd. Mais au regard de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. C'est lui qui juge. Il a dit, à cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destinais. Mais il restera encore de très, très, très longs jours à Moïse, au service de Dieu. Il restera encore des temps particuliers, des temps de bénédiction dans l'obéissance. Et Dieu a une perspective plus large des choses. Il a toujours une perspective plus large des choses. Vous voyez, Dieu ne rentrera pas en terre promise, mais il a été vraiment un homme obéissant et un homme extraordinaire. Quelle leçon pouvons-nous tirer de la vie de Moïse? Je ne vais pas vous faire un cours biblique, voyez, mais c'est un homme remarquable, oui. C'est un homme courageux, oui. Il a eu un appel extraordinaire sur sa vie, oui. Il a été recueilli dans la maison de Pharaon. Il était prince d'Égypte. Oui, Il a eu cet appel pour délivrer le peuple d'Israël. Il a vécu une théophanie, la présence de Dieu. C'est quand même assez extraordinaire. On aimerait bien rencontrer le Dieu dans le buisson ardent. Il reçoit le décalogue, il reçoit les 10 commandements. C'est lui qui sera le législateur d'Israël. Après Dieu, il faut savoir qu'aujourd'hui les Juifs, la loi mosaïque est toujours le cœur de leur foi. Mais il avait un gros problème. Il avait un gros problème, Moïse. Moïse bégayait. Il avait des problèmes pour parler. Dieu parlait à Moïse, mais Moïse, c'est son frère Aaron qui parlait au peuple. Moïse n'était pas parfait, ça vous rassure ? C'est pour cela que nous serons tous appelés. Même si nous sommes imparfaits, nous serons tous appelés. Moïse va achever sa mission. Il aura 120 ans, il va monter sur le mont Nebo, où il va mourir. Beaucoup, je sais que vous aimez la Bible, enfin j'espère que c'est votre lecture de chevet avant de vous coucher. Oui ? Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'hommes bibliques étaient habités d'une patience remarquable. Nous avons eu Abraham, nous avons eu les prophètes. Vous vous rappelez cette histoire de Joseph en Égypte ? Magnifique. Mais au regard de la Bible aussi, nous voyons que Élie n'était pas si patient que ça. Il n'était pas infaillible. Tous ces hommes étaient des grands serviteurs de Dieu. Tous, même dans leur imperfection. Seul Dieu est parfait. Dieu est lent à la colère, oui. Il a une patience de père pour ses enfants, oui. Et vous savez pourquoi il a une énorme patience avec nous ? Parce que nous sommes des grands impatients. La parole nous dit un Dieu qu'il est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Oui, c'est dans Exode 34, verset 6. Je ne l'avais pas donné. C'est avec patience que Dieu travaille à notre salut et nous prépare à sa gloire. Oui, mes frères et sœurs, oui. Dans 2 Pierre 3, verset 9, là ça va être donné. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors souvent, nous nous demandons pourquoi le Seigneur n'intervient pas plus vite dans nos vies. Seigneur, où es-tu ? Eh bien, mes frères et sœurs, il patiente. Il patiente de notre impatience. Oui. Parce que lui, il n'est jamais en retard. Jamais. Dieu est un Dieu de promotion. Dieu est un Dieu d'élévation. Ta volonté, c'est que tu grandisses, mon frère et ma sœur. Parce qu'il veut t'amener à la perfection dans son temps à lui, pas dans son temps, pas dans le temps que tu t'es donné, toi. Jésus est la perfection de Dieu et Dieu veut que nous ressemblions à son Fils. C'est pour ça que Dieu va nous donner des temps favorables. Oui. Et il y a un temps favorable pour chacun de nous dans notre vie. Dieu nous donne des temps favorables où il faut rentrer dans ce temps favorable de Dieu. Je vais vous poser une question. Ça va, vous dormez pas ? Alléluia. Qui souhaite être appelé comme Moïse l'a été ? Toi ? T'as vu ce qu'il a vécu ? Qui souhaite être appelé comme Moïse l'a été ? Quelle vie il a eue, Moïse ! Plein de bénédictions, il a tout eu. Il a eu l'onction de Dieu, il a vu des miracles, il a vu des signes. Il a eu la mer rouge qui s'est ouverte devant lui. Oh, Il n'y en a pas plus que ça qui aimerait être appelé comme Moïse l'a été. Ah, moi, j'aimerais bien. Moi, il m'appelle demain, même maintenant, j'y vais. Ou je quitte tout, j'y vais pour servir le Seigneur. Ah, mais nous sommes peut-être dans la salle d'attente de Dieu. Nous sommes peut-être dans ces salles d'attente depuis quelque temps où nous nous posons la question, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'appeler ? Où j'en suis ? On peut se poser aussi la question, comment, et plutôt, on peut se poser la question, pourquoi suis-je dans cette salle d'attente ? Mais la meilleure question, c'est comment en sortir ? Comment je peux sortir de cette salle d'attente ? On peut se poser aussi la question, est-ce qu'un jour dans ma vie, j'ai frappé le rocher au lieu de lui parler ? Est-ce que j'ai frappé le rocher ? Est-ce que le rocher est resté muet quand je lui ai parlé ? Oui, ce sont des bonnes questions. Comment pouvons-nous entrer dans les plans de Dieu ? Comment pouvons-nous sortir de cette salle d'attente ? Oui, par l'obéissance. Oui, par la patience. Oui, frères et sœurs. Oui. Je veux aller plus vite. Oui, je veux aller plus loin. Oui. Mais c'est bien, t'es enflammé. Vas-y, garçon, t'es enflammé. Mais Dieu est maître du temps. Dieu est maître du temps et il fait toutes choses belles en son temps. Toutes choses belles en son temps. Nous devons apprendre à attendre les temps favorables de Dieu. Oui. Dans Ésaïe 40, au verset 31, la parole nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les ailes, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Je vous prêche la parole de Dieu, mes frères et sœurs, qui est une parole de vérité. Ce que Dieu fait en nous lorsque nous attendons est souvent plus important que ce que nous attendons. Ça va ? Vous voulez que je répète ? Ce que Dieu fait en nous lorsque nous attendons est souvent plus important que ce que nous attendons. Ça va mieux comme ça, je crois. Le chemin, même s'il est long, est souvent plus important que le but. Oui, est souvent plus important que le but. Mais alors, je vous entends d'ici. Mais moi, je n'ai pas de patience. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de patience ? On reste dans le couloir ? On reste assis, là, en attendant ? Jésus pardonne notre impatience, frères et sœurs. Il connaît votre cœur, il connaît le mien. Il connaît notre impatience. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Oui, il connaît nos faiblesses. Jésus rachète nos fautes quand nous leur confions. Oui, et Jésus nous donne sa patience. Il donne sa patience, il nous donne sa paix. Parce que cette paix, cette patience, c'est un fruit, le fruit de la patience. Et ce fruit de la patience nous rend capables d'espérer au-delà de toute espérance. C'est fort, ça, hein ? Vous ne croyez pas ? C'est une patience surnaturelle qui, dans la foi, bouscule le naturel et nous ouvre les perspectives de Dieu. Voilà la patience de Dieu. Qui veut donner à chacun d'entre nous ce matin. Quand Dieu nous fait patienter, c'est qu'il use de patience. Et c'est pour que son Saint-Esprit fasse son travail dans nos cœurs. Oui, voilà la patience de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous fait attendre. Parce que nous serons tous appelés. Mais nous serons tous appelés quand nous serons préparés. Et un jour, nous entendrons cette petite voix dans notre cœur qui nous dira « Va ». Va, parce que c'est le temps. Va, parce que c'est mon temps. C'est mon temps pour ta vie, pour que tu rentres dans ta destinée d'enfant de Dieu. Va, va, va. Alors, mes frères et sœurs, de grâce, s'il vous plaît, Ne frappons pas le rocher. Ne frappons pas le rocher. Ne forçons pas la main de l'Éternel. Non, non, ne frappons pas le rocher. Demandons au Seigneur de nous armer de patience jusqu'au temps favorable, décidé par lui seul, pas par nous. Même si nous avons le zèle, même si nous avons le feu, même si nous voulons aller plus loin, oui, c'est bien, mais attendons les temps de Dieu. Dieu est cohérent. Dieu est toujours cohérent par rapport à ses enfants. J'ai dû dernièrement chercher la cohérence de Dieu dans ma vie. C'est un combat. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Cherchons sa cohérence là où nous sommes aujourd'hui. Cherchons la cohérence de Dieu. Quelle est sa volonté ? Que ta volonté soit faite. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. L'appel de Moïse est unique. Pourquoi il est unique ? Parce que Moïse était unique et parce que nous, nous sommes uniques et nous serons appelés d'une façon unique. Ce sera ton appel, ce ne sera pas celui de ton voisin. Nous sommes uniques. Alors s'il vous plaît, n'utilisez pas de comparaison par rapport à votre voisin. Ne dites pas celui-là, il a ça et moi, j'ai que ça. Ne dites pas celle-là, elle a fait ci, celle-là, elle a fait ça. N'utilisez pas de comparaison. Regardez en vous. Regardez l'œuvre de Dieu, son œuvre qu'il a déjà accomplie en vous. Mais ne regardez pas votre voisin. C'est vous que le Seigneur appelle. Ce n'est pas votre voisin. Vous ne devez pas rentrer dans la vision ni dans l'appel de votre voisin. C'est vous que le Seigneur va appeler. Pas quelqu'un d'autre. N'utilisez pas de comparaison. Parce que vous voyez, moi je vous dis, Dieu est allé chercher David, un petit berger. Et il a fait d'un homme ordinaire un homme extraordinaire. Et aujourd'hui, vous êtes tous des gens extraordinaires aux yeux de Dieu. Amen. Vous êtes tous des hommes extraordinaires et des femmes extraordinaires. Dans Jacques 4, au verset 6 à 8, la parole nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ouais. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Moïse était un homme humble. Humble. Jusqu'au bout, il était humble. Et pourtant, Dieu l'a fait homme de pouvoir. Mais il était humble dans son cœur. Vous ne trouverez jamais au Moyen-Orient aucun symbole de la gloire de Moïse, rien. Vous verrez des symboles de la gloire de Dieu, mais jamais des symboles de Moïse. Oui, d'accord, Pharaon a tout effacé, oui. Parce que Moïse l'a trahi, oui. Et vous savez que Dieu l'a lui-même enterré. Il a lui-même enterré Moïse au mont Moab. Vous vous rendez compte de ça ? Dieu a enterré Moïse. C'est quand même assez extraordinaire. Il a enterré son propre serviteur. Alors Moïse a-t-il été appelé à l'importance ? Moïse, son appel, a-t-il été un appel pour entrer dans l'importance ? Non, mes frères et sœurs. Moïse a été appelé à l'obéissance. Moïse a été appelé à l'obéissance parce que ce n'est pas l'importance qui a de la... Ce n'est pas... C'est son obéissance qui avait de l'importance aux yeux de Dieu. Vous vous rendez compte de ça ? C'était son obéissance qui avait de l'importance. Moïse a reçu premièrement un appel. Ensuite, il est rentré dans sa vision. On ne peut pas rentrer dans une vision si on n'a pas été appelé. C'est impossible. On met la charrue avant les bœufs. Vous voyez ? D'abord, il reçoit son appel. Ensuite, il reçoit la vision. Ensuite, il reçoit l'onction. Et ensuite, il rentre dans l'action. L'important pour Moïse n'était pas la fonction, mes frères et sœurs. Ce n'était pas la fonction, c'était l'onction. Quand il a posé les plaies sur l'Égypte, tout seul, en tant qu'humain, il n'aurait pas pu s'il n'avait pas eu l'onction de Dieu. L'important pour lui, ce n'était pas la fonction, c'était l'onction. C'était l'onction de Dieu, c'était l'onction du Saint-Esprit, c'était la puissance de Dieu en action pour réaliser sa mission. Sa mission, c'était de délivrer le peuple hébreu pour en faire une nation, c'est-à-dire Israël. Vous pensez que Dieu est le même aujourd'hui que demain ? Vous pensez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain ? Oui. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, qui qualifie. C'est le Saint-Esprit qui qualifie. C'est le Saint-Esprit qui qualifie parce qu'il nous donne son action, son onction pour entrer en action. Oui. Il nous donne son onction pour que nous puissions entrer dans l'action. Dans l'action, dans le but de glorifier notre Seigneur. C'est ça, c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas celle de l'homme. Moïse n'a jamais voulu sa propre gloire. L'onction nous met en action et nous conduit à la perfection dans notre action. Ça va, vous arrivez avec Léon ? Oui ? L'homme ne donne pas, il reçoit l'onction. Vous ne verrez jamais un homme donner l'onction. Jamais. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction pour la fonction. Dans nos prières, demandons l'onction du Saint-Esprit et par la foi, rentrons dans l'action. Rentrons dans l'action par l'onction. Mais ne courons jamais, frères et sœurs, après la fonction. Jamais. Si vous n'avez pas l'onction, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Christ attend notre fidélité dans nos responsabilités. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes tous responsables. Tous responsables. De Corinthiens 5, nous avons le premier ministère, c'est le ministère de la réconciliation. La responsabilité, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Nous sommes tous responsables. Tous. Mettons nos pas dans les pas de Jésus. Dans les pas de Jésus. Ni à droite, ni à gauche. Dans les pas de Jésus. La foi, cette petite graine que le Seigneur a plantée dans ton cœur. Il l'a plantée dans ton cœur. Tu ne serais pas là ce matin si ce n'était pas, ça. Il va la faire grandir. Il va la faire grandir et tu vas accomplir des grandes choses. Oui, parce que ta foi, mon frère, ma sœur, va déplacer des montagnes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen. Votre foi va déplacer des montagnes. Vous y croyez ? Oui, amen. Dieu a des projets pour nous plus grands que notre pensée, plus grands que ce que nous pouvons nous-mêmes imaginer. Oui, Dieu a une perspective formidable. Et nous, on est là, là. Et lui, il veut ça pour nous. Alors soyons fidèles dans les petites choses, parce qu'il va nous donner des grandes choses si nous patientons après ces grandes choses. Si aujourd'hui, le Seigneur te... Si aujourd'hui, tu donnes un simple verre d'eau à l'homme, demain, ce verre d'eau sera un verre d'eau vive avec laquelle l'homme n'aura plus jamais soif. Vous imaginez ? Tout est entre les mains de Dieu, alors soyons patients. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Alors je ne vous dis pas que ce sera maintenant, parce que c'est entre les mains de Dieu. Et seul Dieu le sait. Est-ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, est-ce que j'ai dans ma foi, c'est que bientôt, bientôt, nous soufflerons sur la braise. Cette braise allumera des grands feux, mes frères et sœurs. Et nous verrons la naissance de nouvelles églises. Est-ce que vous croyez à ça ? Amen. Bientôt, nous prophétiserons. Oui, nous laisserons la place à la prophétie. Nous interpréterons la parole des anges et nous édifierons l'Église. Est-ce que nous croyons à ça, frères et sœurs ? Amen. Bientôt, nous annoncerons l'Évangile aux perdus, bien sûr. Nous réconcilierons l'homme avec Dieu. Et des hommes et des femmes seront sauvés. Nous croyons à ça, frères et sœurs. Amen. Bientôt, nous recevrons un cœur de berger. Nous prendrons soin des brebis que le Seigneur nous confie. Nous allons les aimer et nous allons les consoler. Jésus était un berger. Est-ce que nous croyons à ça, frères et sœurs ? Amen. Bientôt, Bientôt, nous enseignerons nos frères et nos sœurs. Oui, bientôt, nous allons les enseigner. Nous allons redresser avec douceur ce que Dieu, ce que les hommes ont plié dans la parole de Dieu. Nous croyons à ça, frères et sœurs. Oui, amen. Bientôt, sans or ni argent. Oui, notre prière. Notre prière dans le nom puissant de Jésus produira des miracles et des prodiges. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Nous aurons ni or ni argent. Mais cette onction de Dieu en nous nous permettra de faire des miracles pour sa gloire. Nous verrons des guérisons, nous verrons des signes. Bien sûr, nous verrons des délivrances dans son nom puissant. Est-ce que nous croyons à ça, mes frères et sœurs ? Oui, amen. C'est la volonté de Dieu. Et en son nom, nous ferons des miracles. C'est sa promesse. Est-ce que nous croyons à ça, frères et sœurs ? Amen. Alors, ce matin, nous allons avoir des clés parce que le Seigneur veut nous donner des clés. Ce matin, nous devons avoir et recevoir la perspective de Dieu dans nos vies. Ce matin, le Seigneur veut nous donner des clés. Dieu nous dit ce matin, j'ai une clé pour chaque cœur. J'ai une clé pour chaque personne ici ce matin. Et j'ai une clé pour les portes qui n'ont pas encore été ouvertes dans ta vie. Ce matin, le Seigneur va te donner les clés des portes qui n'ont pas encore été ouvertes dans ta vie. Écoute-moi. Écoute-moi. Shema, shema en hébreu. Écoute, écoute. Entre, enracine-toi dans mon intimité. Viens. C'est le temps. Viens dans la prière. Viens t'asseoir avec moi, le Seigneur te dit. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Accorde ton cœur à mon cœur parce que je veux te donner la clé. Je veux te donner la clé. Je vais m'incliner vers toi parce que je veux écouter ton cri. Je veux écouter ton cœur et révéler mes secrets ce matin. Oui, c'est ce que veut le Seigneur. Il veut révéler ses secrets dans ton cœur parce que c'est ton héritage. C'est la promesse, c'est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Es-tu prêt ce matin à l'accueillir ? Es-tu prêt ce matin à l'accueillir ? Amen. Amen. Espère en moi, fortifie-toi, marche par la foi. C'est ce chemin et c'est le vrai chemin. C'est ce chemin divin qui fera que nous allons, toi, toi, toi et moi, déplacer les montagnes. Amen. Je vous invite à la prière.